Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. Alors, changement complètement de décor hein, par rapport à ce qu'il nous propose d'habitude, puisque là, il va nous parler des caricatures. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. En fait, c'est pas. Enfin, le décor change toutes les fois, finalement, puisque les sujets sont divers. Mardi dernier, c'était le vol de la Joconde. Enfin, le mardi précédent, c'était Fatima. Il y a eu les rois thaumaturges. Enfin, non, les sujets sont variables. Et là, je vais vous parler des caricatures. D'ailleurs, c'est dans l'actualité, on le sait, puisque en octobre dernier, un professeur de collège, Samuel Paty, a été assassiné dans la rue de la façon la plus barbare qui soit, puisqu'il a été décapité. C'est tout simplement parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet, on le sait, publiques d'ailleurs, hein, caricatures publiques, celles qui avaient été republiées par Charlie Hebdo lors du procès des complices, hein, des assassins, des terroristes, avaient republié, et donc il les avait montrées. Et donc, bon, ça a déclenché un phénomène sur la toile. Et puis un jeune de 20 ans est venu l'exécuter parce qu'il y avait eu des appels au meurtre. Voilà. Et là, c'était, comment dire, aujourd'hui, de nos jours, c'est plutôt l'islamisme. Bien sûr, c'est les islamistes qui sont dangereux en la matière, qui sont, lorsqu'ils sont ciblés. Mais à l'époque, nous allons évoquer, notamment, c'était bien sûr l'anticléricalisme. C'était l'Église catholique qui était en cause, notamment avec le point culminant, qui a culminé avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Alors là, c'était les caricatures anticléricales. Mais là, c'était moins dangereux, hein, parce qu'il n'y avait pas d'assassinat en retour, quoi. Voilà. Mais les caricatures ne se limitent pas à ça. Hein. Il y a des caricatures politiques, bien sûr, qui sont, je pense, l'essentiel, des personnalités politiques, d'ailleurs, qui s'y prêtent. Parfois, on a De Gaulle, par exemple, qui était très caricaturé. Napoléon l'a été aussi, alors peut-être par l'étranger, parce qu'on peut caricaturer les Anglais, caricaturer Napoléon. Voilà. Et au niveau international, il y a des caricatures. Louis-Philippe, alors la monarchie de Juillet, le roi bourgeois, le roi Louis-Philippe, 1831-1848, a été très caricaturé. Vous savez, il était montré en pomme ou en poire, enfin voilà. Et puis alors récemment, il y a eu Trump. Donald Trump était jusqu'à de façon infâme, il était caricaturé sans vergogne, alors que Obama. C'était un saint, quoi. Il a toujours été présenté de façon sublime et merveilleuse, quoi. Voilà. Donc, à l'origine, elle remonte très loin, cette pratique, puisque dans l'Antiquité, par exemple, Plote, Aristophane, dans les historiens grecs, enfin, de l'Antiquité, et les littérateurs grecs, on dirait, ont pratiqué déjà la caricature sur les vases. Grecs et romains, on trouve des caricatures. Et même à Rome, on a découvert, je ne sais plus, dans les années 50, une caricature du Christ. Du Christ qui était présenté comme un âne. Hein, voilà, un graffiti du 1er siècle. Alors il y a des fresques à Pompéi, à Herculanum, voire dans l'ancienne Égypte, on trouve ces caricatures. Alors c'est souvent le bestiaire qui est utilisé, il y a diverses méthodes, divers supports, le bestiaire, les légumes, j'ai parlé de la poire de Louis-Philippe, et puis on déforme les personnages, hein. Par exemple, c'est une notion de grosse tête, par exemple, les carnavals aussi présentent des caricatures, hein, voilà. Dans le nord, je sais pas, Béthune, ouais, à Nice aussi. Ouais. Donc, c'est la grosse tête sur un petit corps. Voilà. Alors, il y a eu des supports divers et variés, les estampes, les lithographies, qui ont permis de les multiplier, ces caricatures. C'est souvent par le biais de la presse, mais pas que. Il y a les affiches. On avait aussi à une époque, au milieu du 20e, il y a eu des techniques déjà d'époque qui étaient un petit peu comme des autocollants. Que la presse, cette presse souvent de gauche, eh bien, transmettait à ses abonnés, c'était des paquets par paquets de 100, voire de 1000, à charge de les coller. C'était donc ces caricatures qu'on les collait partout, hein, sur les murs, sur les arbres, voilà. Alors il y a eu les caricatures, je l'ai dit, anticléricales, à l'époque où l'Église était puissante, mais il y a eu aussi des caricatures cléricales, c'est-à-dire par les journaux comme le Pèlerin, qui est né dans les années 1900, a pratiqué la caricature contre ses adversaires aussi. Hein, voilà. Alors aussi des noms de journaux, des noms de grands dessinateurs, parce qu'il y a les dessins, puis aussi les légendes, bien sûr, et puis avec la radio, la télé, bien sûr, il y a ces caricatures, on peut citer, en matière de télé, on y reviendra, bien sûr, le bébé de show, les guignols de l'info, le bébé de show qui est apparu en 2007, je crois, ou en 1987, si je ne dis pas de bêtises, et qui est disparu, me semble-t-il, vers 1995. Voilà. Donc, les guignols sortaient sur Canal+, le bébé de show sur TF1, hein, voilà. Et c'était une heure de grande écoute, juste avant le journal de 20h, alors il y avait peut-être 2 millions de... C'était formidable, le public, les téléspectateurs. Et puis, il y a des films, des dessins animés, filmés, enfin voilà. Tous les supports sont bons et nombreux. Et alors, il y a aussi des grands noms et des titres. Alors, on en citera, par exemple, l'assiette au beurre, dans les années 1900. Alors, le canard enchaîné, qui perdure toujours. Hein, c'était le symbole, enfin, c'est le journal par excellence antimilitariste. Il était anticuré, mais... À l'époque où, je répète, aujourd'hui on tire plus sur... ça s'est marginalisé, bien sûr, l'influence de l'Église. Donc à cette époque, c'était contre le sabre et le goupillon. Voilà. Alors on a eu Harakiri, il y a eu des titres bizarres. Je répète, dans la période contemporaine, sur les guignols, le bébé de chaud, donc qui a disparu. Et puis alors il y avait des grandes signatures... aussi Philippon, Daumier, alors à la période contemporaine, et beaucoup d'autres, j'en citerai au cours de l'émission, les gravures de Gustave Doré, Daumier, je l'ai dit, et puis à la période contemporaine, bien sûr, il y a eu les chansonniers, et puis on peut citer, il y avait le Thierry Luron, Henri Tizot, qui est un peu occulté, je vous passerai un extrait d'Henri Tizot, il caricaturait merveilleusement le général de Gaulle, et gentiment, quoi, je dirais. Et puis il y a eu Fernand Reynaud, là aussi il est oublié. Fernand Reynaud, je ne sais pas pourquoi, le Luron Coluche, alors Coluche aussi, mais on les a vus des centaines et des centaines de fois. Alors Fernand Reynaud, je ne sais pas pourquoi, il est en enfer. La bêtise, hein, des médias, quoi. Qui font ce que fait l'autre à l'identique, quoi. Alors Fernand Reynaud, là c'est tendance, il ne faut pas en parler. Donc on vous passera, pourtant il a fait rire toute la France, et c'était une caricature sociale, là, parce que la caricature, elle peut être politique, anticléricale, voire anti-religieuse. La différence, c'est que l'anticléricale, on s'attaque aux curés, aux institutions, aux papes, aux évêques, aux cardinaux, mais anti-religieuse, on s'attaque à Dieu lui-même. Alors, dans le cadre au Christ, parfois, de façon assez ambiguë, d'ailleurs, hein, voilà, et de façon parfois un peu comme contradictoire, par exemple, pour les attaques contre le Christ, eh bien, notamment au summum, à la fin au début du XXe, c'est-à-dire que dans les années 1880, lutte que notamment contre l'enseignement religieux, par des gouvernements anticléricaux, le petit père Combe, qui avait précédemment, c'était Valdez-Crousseau, c'était des républicains, une troisième république anticléricale, où on a fermé beaucoup de congrégations enseignantes, on a expulsé des congrégations enseignantes, et là, c'était le sommet, on s'attaquait non seulement au clergé, mais aussi à Dieu et au Christ, et de façon assez ambiguë. Par exemple, le Christ, dans certains cas, il était considéré comme une victime. Alors on a par exemple des images où on voit le Christ qui est justement mis en croix par des curés. par des curés hideux. Voilà. Il fait figure de l'humble, il représente l'humilité, voilà. Et c'est lui qui est mis en croix. Ou alors on voit le Christ qui paraît devant le pape, qui surgit, et devant un pape qui ne reconnaît pas, qui est présenté comme un banquier, quoi, entouré de cardinaux, qui empile des pièces d'or. Voilà. Là, c'était des caricatures. Là, dans certains cas, il y a eu aussi des caricatures anticléricales contre le protestantisme au niveau des religions, mais là c'est un degré moindre, parce que le protestantisme c'était surtout pour la pudeur qui était affichée, la vertu qui était revendiquée par les protestants. Hein. Alors par exemple on montrait un Christ habillé, quoi, alors que sous prétexte qu'on s'étonnait, les caricaturistes s'étonnaient qu'un Christ puisse être nu et adoré par les protestants, quoi. Et donc on l'habillait, voilà. Et il y avait mais c'était un degré moindre, hein, contre le protestantisme. Les juifs aussi étaient attaqués, le judaïsme, et l'islam était très marginal, hein, au 19-20e siècle. Mais en fait, parfois les trois religions étaient regroupées. On avait un rabbin, un curé et un imam, hein, qui était présenté en soutane, enfin, qui était justement présenté comme des personnages grotesques. Voilà. Donc, on a ce mouvement de la caricature, je répète, qui fait partie de l'humanité. Alors, à la Renaissance, ça existait aux Pays-Bas, en Allemagne aussi, à l'étranger. Voilà. Donc, cette caricature, notamment par la déformation des corps, on l'a dit, c'est souvent la grosse tête, le petit corps. Et au XVIe siècle, on a on a d'abord les guerres de religion. Les guerres de religion au XVe siècle, hein, au XVIe siècle, que dis-je, voilà. Après la mort d'Henri II, François Ier, Henri II, mais surtout Catherine de Médicis et ses fils, les Valois. Donc là, c'est le summum, Saint-Barthélemy, on le sait. Là, il y avait les guerres de religion, et qui utilisaient aussi les caricatures, et puis ça correspondait avec l'imprimerie de Gutenberg. Alors le développement, alors les gravures sont développées, et puis il y a eu ces bibles, et aussi au XIXe siècle, ces bibles comiques. Alors ces bibles, la bible pour rire, alors qui était bourrée, qui faisait le pendant à l'imagerie religieuse, très développée au XIXe, à l'imagerie et début du XXe, l'imagerie sulpicienne. Alors il y avait des gravures comiques et critiques, voilà. Donc il y a eu pendant cette période, il y a eu la Ligue, les ultra-catholiques contre les protestants, guerre des caricatures aussi, et les protestants étaient aussi iconoclastes, ouais. C'est-à-dire qu'ils abattaient les statues, ils abattaient les images, les tableaux, enfin, dans les églises, dans les couvents. Alors la Fronde aussi contre pendant l'enfance de Louis XIV, 1648-1653, et puis au début de la Révolution, qui annonce la Révolution, Louis XVI. Alors Louis XVI aussi est caricaturé, je l'ai dit, le bestiaire. Il y a eu le cochon, on le présentait comme un gros cochon. Et Marie-Antoinette, alors, était présentée comme une virago, comme une panthère, comme une louve, avec aussi la dimension pornographique et même scatologique. Voilà. Alors, pendant la Révolution, par exemple, il y avait les extrémistes montagnards, il y avait le père Duchesne, hein, de Hébert, hein, avec les insultes aussi, bien sûr, l'image et le verbe. Hein. Donc, il y a eu toutefois, en contrepartie, si on peut dire, pour réprimer, il y a eu la censure. Hein, voilà. Donc, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans son article 11, déclare le droit à la liberté d'expression. Hein, voilà, c'est le principe. Mais la liberté sera toujours encadrée et soumise à des restrictions. Hein, voilà. Là, c'était le principe, avec des exceptions. Hein, les exceptions suivent en général très vite. Par exemple, il y a un décret du 18 juillet 1791 des assemblées, voilà, qui réprime l'incitation à la sédition. Et puis de l'autre côté, l'Église, en réaction, qui était l'objet de critiques et de caricatures, d'insultes, mettait aussi ses ouvrages à l'index. Des ouvrages qui étaient condamnés, voilà, sur la blacklist, on dirait. Voilà. Et en 1792, l'Assemblée interdisait, pardonnez, un décret, interdiction totale des gravures dites subversives. Alors l'Angleterre était plutôt, prônait la liberté, c'était toujours le pays plus libre en la matière. Il y a eu, en fait, l'habeas corpus, enfin, voilà. Et donc, et en Angleterre, il y avait les émigrés, pendant la période révolutionnaire et pendant la période de consulat empire, hein, Napoléon. Et donc, il y avait un mouvement en Angleterre de journaux, d'éditions, donc de caricatures. Voilà. Et on peut citer deux, ils sont peu connus, mais deux génies anglais de la caricature, James Giltray et Thomas Rawlinson, voilà. Et puis, au niveau des peintres, par exemple aussi, Goya, le peintre espagnol du XVIIe, XVIe siècle, présente parfois des tableaux qui sont assez caricaturaux. Hein, il n'embellit pas forcément ses personnages. On a où la vilenie apparaît parfois sur le visage de ses modèles. Hein, voilà. Alors sous Napoléon, au début, avant Napoléon, sous le consulat, d'abord le directoire, et puis le consulat, alors on a ces coups d'État successifs du 18 Fructidor en 5, c'est-à-dire septembre 1791. Donc là, il y a une répression. C'est la répression. Tout ce qui est dit sous les dictatures, là, il n'y a que la géographie possible. Tout ce qui dépasse est condamné. C'est la prison, voire pire. Voilà. Le coup d'État du 18 Brumaire en 8, donc par Napoléon, du 9 novembre 1799. Donc il y avait l'interdiction tout simplement de la presse d'opposition. Seuls les turiféraires du régime pouvaient s'exprimer. Ça, c'est la culture, si vous voulez, bien sûr, c'est le principe des dictatures. Voilà. Donc au milieu du 19e siècle, on a, je l'ai dit, ce développement des supports qui peuvent être avec la presse, mais au-delà de la presse, je l'ai dit, c'est lithographie. Dès 1789, on peut multiplier des images. Hein, voilà. Et puis bien sûr, il y a toutes ces revues. Ces revues qui... Il y en a une liste, alors je donnerai que dans les noms sont parfois... même les noms sont originaux, drôles. La silhouette, la caricature, c'est le nom du journal, le Charivari. Voilà. Plus tard, on le sait, on aura Harakiri, bien sûr, j'ai cité le canard enchaîné. À la fin du XVIIIe siècle, alors il y a aussi toujours cette satire. Hein. Alors, je l'ai dit, Londres était un peu la capitale à l'époque de cette satire et de cette diffusion. Hein. Alors, en art, il y avait ces estampes qui étaient diffusées, lithographie, estampes. Alors, ça permet de démultiplier, c'est des techniques, hein, voilà, de l'époque, sur une simple feuille, voilà. Donc, il y a aussi, bien sûr, la presse illustrée, cette presse satirique, elle prône, bien sûr, le libéralisme, politique, la monarchie constitutionnelle, voilà. Et après la Restauration, après 1815, Charles X, puis Louis XVIII, puis Charles X, et ensuite Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, 1831-1848, après juillet 1830, donc là, le délit de blasphème existe, hein, à l'époque de Louis XVIII, Charles X, il y a un délit, une loi de 1820, alors que j'ai un petit peu de mémoire, mais bon, qui sera abrogé par la loi de 1881, qui instaure la liberté de la presse. Hein. Mais il y a des lois, donc toujours restrictives, hein, voilà, notamment en 1835, des lois répressives. Et alors on a toujours, et certains caricaturistes font de la prison, hein, voilà. Alors on peut citer des noms, Charles Philippon, qui est directeur et fondateur du journal, donc le Charivari. Alors là j'ai noté un nom, mais La caricature, tout simplement. C'est, entre guillemets, le nom du journal. Le Charivari. Alors là, il est condamné. Hein. Il prend des risques. Sous Louis-Philippe, il est condamné. Et alors, c'est de là qu'on utilise peut-être des légumes. La poire, et puis, je sais pas, le poireau, enfin, toutes sortes de... qu'on humanise, en quelque sorte, outre le bestiaire. Et cette fameuse poire qui est célèbre, de Louis-Philippe, voilà. Il fera de la prison, hein, Charles-Philippon. C'est le régime de la censure là, qui se durcit. Alors on a de grands dessinateurs que je recite comme Honoré d'Aumier, qui est un peu le... Dès qu'on pense caricature, on pense à eux. C'était avant les Cabus, avant les Faisans là, d'aujourd'hui. Quoi. Sous le Second Empire, la caricature, là, c'est de nouveau la dictature, comme pour le Premier Empire. Hein. Il y a une loi de 1852. Alors là, cette loi exige que le caricaturé donne son autorisation à la caricature. D'ailleurs, on verra aujourd'hui, dans la période contemporaine, eh bien, souvent c'est un honneur, en quelque sorte, où c'est très prisé pour les hommes politiques d'être caricaturés. Ça signifie qu'on a une importance, et ils sont demandeurs, hein, parfois, de caricatures. Voilà. Donc, on peut citer ici André Gilles, hein, voilà. Et la loi du Second Empire de 1852, répressive, sera abrogée en 1868, au moment de l'Empire libéral, à la fin de l'Empire, où le régime se libère. Alors la Troisième République va d'abord se montrer répressive en ses débuts, puisque la Troisième République, sa curiosité, c'est qu'elle est monarchiste. Elle est composée aussi bien la Chambre des députés que le chef de l'État. En l'occurrence, après Thiers, il y a eu MacMahon. Ils étaient monarchistes. Et on disait que le carrosse du souverain était prêt pour réinstaller le roi. Mais on le sait que Henri V, celui qu'on a appelé Henri V, mais in partibus, pour ses partisans, a refusé le trône. Voilà. Officiellement, il refusait le drapeau tricolore, il voulait le drapeau blanc. Il y avait probablement des raisons plus profondes. Mais donc la Troisième République s'est installée définitivement dès 1873. On parle de cet amendement Wallon, W-A-2-L-O-N, qui instaure définitivement la République. Voilà. Et donc, au début, elle était répressive. Et donc, c'est pour cette raison qu'on utilisait ces symboles, les fruits, les légumes, etc., pour masquer un petit peu, ne pas attaquer de façon directe. Alors, il y a Daumier, à l'époque, il y a les animaux, bien sûr, Daumier, Granville, et puis aussi une satire sociale, voilà, qui est, on critique aussi le monsieur et madame tout le monde, ou les divers corps de la société, que ce soit les aristocrates, les bourgeois. Les bourgeois ont été beaucoup caricaturés, et parfois au-delà, à travers la caricature sociale, il y a une caricature politique. Voilà. Donc on va faire une petite pause. Je vais vous passer des documents qui sont peu écoutés, c'est un peu le principe de l'émission. Alors on va vous passer un personnage qui est attachant, c'est Henri Tizot, qui a caricaturé le général de Gaulle. Alors on va voir, on va vous passer un extrait de 3 minutes, ce serait soit Henri Tizot imite de Gaulle, soit, c'est très drôle, mais très sympathique, je dirais, Henri Tizot a rendez-vous à Colombey. Alors on va en écouter 3 minutes, et ça nous rappellera ce grand acteur qui était Henri Tizot, aujourd'hui disparu.
Vous invitez, est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, ce soir, je peux répondre à cette question par l'affirmative. Oui, je l'ai vu. Et d'ailleurs, il me téléphone très souvent. On a même un petit mot de passe au téléphone tous les deux. Il me dit, allô, est-ce que je pourrais parler, monsieur, qui vous savez? Alors moi, je dis, de la part de qui? Je la parle, vous savez qui? Ah! Bonjour, mon général. Et alors, dernièrement, il me dit, dites-moi, mon cher Tizot, est-ce que vous seriez libre samedi? Je dis, oui. Bon, eh ben, je vous amène au week-end à Colombey. Je vais vous chercher à 7h à Montparnasse. Ça vous va-t-il? Je dis, oh, on ne va pas partir avant. Non, mon vieux, fini à 6h30, je vous prends à 7h. Alors, il vient me chercher à Montparnasse, il habite Montparnasse. Il vient me chercher avec la déesse, les motards, enfin, tout le cirque. Moi, je monte devant, lui et elle étaient derrière, et la voiture démarre à toute allure. J'avais une peur, c'est vrai, j'aime pas la vitesse. J'aime pas les vides, surtout quand je conduis pas, j'aime pas du tout ça. Et alors, Mme de Gaulle aussi n'aimait pas ça. Elle disait, mon Dieu, Charles, pourquoi aller si vite? Nous avons largement le temps, nous allons nous reposer. Je vous en supplie, Charles, faites ralentir. Ralentir? Vous voulez ma mort, ils veulent. On a pris la route, on a fait très vite pour aller là-bas, penser avec les motards, ils écartent tout. Et puis les routes sont très bonnes, non c'est vrai, les routes sont très bonnes, tout est recoudronné de neuf, c'est formidable. On est arrivé vers les 9h, on s'est mis à table tout de suite, il y avait de la potée. Ah oui, parce que ça, il adore la potée. Lorraine, évidemment, suivait la croix. Et que je vous raconte, dans l'intimité, vous savez, dans l'intimité, il est absolument tel qu'on se l'imagine. Il est insupportable. Il a toujours besoin de quelqu'un. Passez-moi le sel, il n'y a pas assez de pain, c'est chaque fois la même chose. Un coup de rouge, tenez, servez-moi mon cher Tiso. Cette potée est trop chaude. Alors vous savez ce que c'est, elle, toujours gentille, essayant d'arranger les choses. Voyons Charles, faites comme moi, soufflez. Alors il souffle dans sa cuillère, il en fout partout. Ça c'est son côté militaire, vous savez. Bon, alors, on a pas mal mangé, on s'est levé de table, on a mangé frugalement, enfin pas mal, pas d'excuses, mais enfin pas mal. J'avais encore faim, mais enfin, bref. Ah non, chut, mon Dieu, ah non, chut, chut. Alors ça non, hein, que ça reste entre nous, hein. Non, c'est vrai que ça n'aille pas plus loin, hein, parce que ça vient pas de lui, ça vient d'elle. Alors, on est allé dans le salon, et alors il y avait un grand feu de bois, et vous savez, il était tout triste. Il était tout tristouillé dans son fauteuil. Alors moi, je lui dis, franchement, il m'invite, de quoi j'ai l'air, et puis ils me disent pas un mot, de quoi je veux. Alors, c'est ce que c'est. Dans ces cas-là, bêtement, je fais. Ah là 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 là. Ah, je vous en prie, un tiso, me parlez pas de politique. Alors, on est allé se coucher, la conversation s'engageant pas. On est allé se coucher. Le lendemain, à 7h, on me réveille. Tiso, réveillez-vous. La messe est de 8h. Alors, on est allé à la messe. On est allé. Ah oui, oh, que je vous raconte, que je vous dis. Sorti de la messe, j'étais embêté. Oh, tout le monde qui demandait des autographes. À moi.
Donc la Troisième République, à ses débuts, est répressive, mais il y a toujours quand même un contrôle, une répression, une censure. Alors on utilise aussi la satire sociale, c'est-à-dire, c'est pas les hommes politiques qui sont visés, mais en critique des personnages de la société, quoi, de la vie courante, en quelque sorte. C'est les scènes et les mœurs, hein, qui sont croquées, rendues comiques, ridicules. Et on invente, par exemple, un personnage, c'est aussi un tendance, qui s'appellera Robert Magloire. Alors c'est une sorte de pseudonyme, mais enfin, c'est un personnage fictif, mais qui perdure, hein, voilà. C'est, je crois, Daumier qui invente ce personnage, hein, voilà. Et qui était d'ailleurs un personnage de théâtre créé par le grand acteur Frédéric Lemaître, hein, voilà. Donc, il y a cette large palette, hein. On utilise aussi Ratapoil, hein, voilà, qui est aussi, ou un personnage caricaturé, voilà. Ratapoil, je crois qu'il est plutôt bonapartiste, hein, voilà. Donc c'est des personnages symboles, hein, voilà. Comme en Angleterre, je sais pas, il y avait Monsieur Pickwick, vous savez, dans les Dickens, enfin, un grand échalas, enfin voilà, c'est des personnages typiques. Alors la Troisième République, je l'ai dit, alors là, bien qu'elle soit très instable, les gouvernements tombent, un gouvernement sous cette Troisième République qui est très longue, hein, 75 ans. De 1800, après 1870 à 1940, elle a une grande longévité et aussi elle laisse remarque par sa. Bien que les gouvernements, j'aurais dit, de la moyenne c'est 7 mois, il y a une grande instabilité puisqu'il y a un grand pouvoir au Parlement, c'est les combinaisons politiques, voilà, les ministères tombent, mais il y a aussi un arsenal de lois très riche. De lois progressistes, on dirait, et notamment la loi sur les associations, sur les syndicats, et notamment cette loi du 29 juillet 1881, qui est toujours d'actualité, et qui donc libère la presse. Il n'y a plus notamment ce délit de blasphème qui existait sous Charles X, mais c'est utilisé aussi à des fins qui ne sont pas toujours nobles. Par exemple, il y a l'antisémitisme, il y a les caricatures là aussi de la droite extrême, antisémite, par exemple, lors de l'affaire Dreyfus, voilà. Et puis lors du Dreyfus, et les juifs sont caricaturés, c'est des assoiffés d'argent, voilà, ils sont présentés comme des vampires qui, eh bien, des usuriers, enfin, voilà, avec les traits typiques, voilà, qui sont très très développés, très poussés à l'extrême, à l'outrance. Il y a aussi le nationalisme avec la tentative de prise du pouvoir par le général Boulanger qui échoue. C'est un apprenti dictateur mais qui n'en a pas l'étoffe. Et donc il y a ces caricatures nationalistes à l'époque. Donc là, qu'on pourrait situer, on dirait aujourd'hui, à l'extrême droite. Alors il y a Charivari, je l'ai dit. Alors Harakiri, là c'est carrément à gauche. Et à Charivari intervient le dessinateur Soupeau. Voilà. On peut citer Jean-Louis Forain, hein, aussi, là, qui est Carandache, D-A-C-H-E, D'A-C-H-E, qui justement critique et caricature Dreyfus et Zola. Voilà. Donc, et puis, les caricatures au cours de cette Troisième République, dans les années 30, notamment entre deux guerres, eh bien, comme l'assiette au beurre, très célèbre. Bien critique, très dur roman, c'est très violent, la bourgeoisie affairiste, et puis la corruption, c'est le temps des corruptions, l'affaire Stavisky, et il y a des caricaturistes font de la prison, comme Daumier, je crois, qui fait de la prison. Voilà. Alors, séparation de l'Église et de l'État, je l'ai dit en 1905, alors là, c'est la question religieuse, et alors la caricature anticléricale se développe. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, anticlérical contre les institutions, contre les curés, les religieux, les religieuses, mais aussi contre, donc anti-religieuse, contre Dieu, contre le Christ. Dieu est présenté par exemple comme un petit vieux, fatigué, voilà. Toujours cette assiette au beurre qui est créée en 1912, et l'assiette au beurre était anti-Dreyfusarde, hein. Et donc antisémite, hein, je pense, voilà. Et qui a été remplacé par le rire, parce qu'on substituait un titre à un autre. Hein. Clémenceau, d'ailleurs, avait créé un journal, L'Homme Libéré, et je crois qu'après, il l'avait remplacé par L'Homme Enchaîné. Avant d'être aux affaires, il était aussi censuré. Alors là, c'est le rire qui est créé, d'ailleurs, en 1893, voilà. Et puis, en 14-18, c'est l'union sacrée. Donc là, vraiment, c'est une accalmie. Il y a des éditions de guerre. Enfin, voilà. Donc, alors c'est le rire au rouge, là. Le rire, nouveau titre, le rire rouge, voilà. Donc, c'est la contestation antimilitariste ou pacifiste existe. Mais elle est très, j'allais dire, quand même très discrète. Hein, voilà. Elle se fait hors de la presse, hein, notamment par des artistes indépendants, en Allemagne aussi. Là, je ne vais pas développer. Il y a aussi en Allemagne des pacifistes, voilà, qui mettent le message pacifiste, enfin, au milieu de la guerre, après, passe plus, mais il est quand même, bien sûr, très contrôlé, très réprimé. Et puis, l'apparition de la photographie. On disait que la photographie ne pouvait pas être caricaturale. On a constaté que c'était faux, parce que les photos peuvent être tout à fait caricaturales. Hein. Le photographe, il peut croquer un personnage. Je citais Trump tout à l'heure. Par exemple, autant on voyait par exemple Obama dans des postures sublimes, il était croqué, là, beau, généreux. Trump, on le croquait. Tout le monde a des attitudes involontaires, un peu grotesques. Et alors, on le croquait comme un clown, quoi, quand il faisait une grimace. Donc, la photographie peut toujours, être aussi une caricature. Et puis, le développement, entre les deux guerres, du dessin éditorial, qu'on appelle au trait. Alors, le canard enchaîné, bien sûr, en 1915. Voilà. Alors, et puis, pendant la période de 40-45, régime de Vichy, donc là, bien sûr, il y a des caricatures alors là, qui vont dans le sens du... C'est d'ailleurs souvent le cas aujourd'hui, hein, je trouve, quand on entend sur les radios des billets d'humour, des caricaturistes, ils prennent pas de risques, ils sont comme des girouettes, ils vont dans le sens du vent, voilà. Ils ne tirent que sur des ambulances, hein, voilà. Et, alors la caricature, par exemple, aujourd'hui c'est le féminisme triomphant, donc bien sûr le sexisme est condamné, il n'y a pas le blasphème, mais l'homophobie est condamnée, le racisme est condamné, quoi. Et, mais souvent ils vont dans le sens de, voilà, ils sont assez piteux, il faut dire, aujourd'hui, c'est pseudo-humoriste. Donc sous Pétain, c'était la caricature, c'est la géographie, quoi. Voilà. Donc on peut citer Ralph Soupeau, connu, alors là, lui... il a été plus inquiété en 46 puisqu'il intervenait dans le journal Je suis partout de Robert Brasillac, un organe collabo. Il a été arrêté en 46, Soupeau, condamné aux travaux forcés après dégradation nationale. Et donc, il y a eu aussi des caricatures de résistance, bien sûr. Ça fait partie des résistants, et notamment chez Radio Londres, les Français libres, il y a eu des comme Pierre Dac, très connu. Alors on peut citer ici, moins connu, Raoul Cabrol, qui dès 1938 faisait des caricatures d'Hitler. Et ensuite il a été pourchassé par la Gestapo. Je pense qu'il s'en est tiré. Et puis il y a eu des caricatures aussi apolitiques. Simplement, je l'ai dit, des humoristes plus légers, qui critiquent la société, mais de façon critiquent les comiques, les ridicules. Ah, puis je voulais citer aussi, on a fait une émission sur Jean Moulin, dans le courant de l'année passée, et qui a été un peu pollué par des problèmes techniques, et on y reviendra, je pense, parce que le personnage le mérite. Et Jean Moulin avait été à ses débuts caricaturiste. C'était un assez bon caricaturiste, il avait été exposé, enfin voilà. C'était d'ailleurs sa vocation, initialement, hein, voilà. Puis il a été préfet, etc. Alors on peut citer aussi dans ces caricaturistes apolitiques, Sénep, hein, c'est des signatures toujours très courtes, hein, voilà. Qui faisaient une critique, parfois par exemple. À l'époque de Vichy, il y avait des critiques implicites, voilà, sous prétexte de caricature de mœurs. Pour qui savait lire entre les lignes, c'était une attaque aussi du gouvernement en place. Après la guerre, alors on peut citer Roland Moisan, au Canard enchaîné, hein, qui est en 1955. Alors là, c'est la charge contre De Gaulle, alors dès 58, voilà. Là, c'est très prolixe, c'est pas au très coupé à la serpe, si on peut dire, très sobre. Là, il y a beaucoup, c'est très touffu, ces caricatures, il y a un foisonnement. Voilà. Et puis, dans les années donc 60-70, il y a les bandes dessinées, par exemple, le cinéma, on le sait, la télévision. Alors, ciné, toujours... intervient à l'Express, Sénep, là c'est ciné, hein, là aussi toujours anti-gaulliste, anti-guerre d'Algérie, anti-militariste. Alors le même ciné, S-I-N-E, c'est des signatures comme, je l'ai dit, à la Serpe, Cabu, etc. Ça claque, hein, comme un coup de fouet, quoi. Et il crée Ciné Massacre, hein, son propre journal, il crée Zéro, alors avec François Cavana qui intervient, on le connaît, François Cavana, voilà, très bien sûr à gauche, Harakiri, avec le professeur Choron, hein, alias Georges Barnier, hein, donc le professeur Choron, bien sûr, illustre, mais est interdit, Harakiri, suite à une caricature, alors, Bala Colombé, je ne sais plus quelle est cette caricature, il y a un côté sanguinaire, je pense, hein, voilà. Charlie Hebdo, qui apparaît dans les années 1970. Et puis on peut citer, alors toujours ces titres comme L'Enragé. Voilà. Alors Charlie Hebdo, y interviennent des signataires connus, des grandes signatures de la caricature. Topper, je l'ai dit, GB, Cabu, Wheeler et Sidney Volkonski. Là. Donc, l'enragé également, la gueule ouverte. Alors, la grosse Bertha, c'est des titres. Alors, Morzilleuil, c'est des titres de journaux, voilà. Humoristiques, tout simple et tout. Voilà, provocateur. Voilà. Il y a aussi la caricature de droite, je l'ai dit, plus rare, plus marginale, mais elle existe. Voilà. Là, c'est pas extrême droite, c'est la droite. Comme Jacques Faizan, qui succède à Sénèpe au Figaro, dans les années 89-2000. Là, c'est moins percutant. Plantu aussi intervient au Monde. Voilà. Et il y a également, eh bien, il y a là, c'est moins virulent. C'est des critiques, c'est la drôlerie, quoi, sans, peut-être sans méchanceté. Alors, je l'ai dit, Cabu, lui, est totalement libre, par exemple. Et puis, il y a des. Comme le Canard Enchaîné, par exemple, c'est une presse d'opposition, mais totalement indépendante. Ils ne sont pas soumis à la publicité. Donc, pas de ressources publicitaires, c'est les abonnés, voilà. Donc, ils ne sont pas soumis, ils sont hors de toute influence. Et aujourd'hui, les politiques jouent, si on peut dire. Ils sont friands quand même de cette satire, parce que être caricaturé, c'est signe qu'on existe. Hein. Alors on ne va pas caricaturer un illustre inconnu. Et par exemple, Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, à l'époque, alors je sais plus, Giscard, je ne pas d'une bêtise, ou de Sarkozy. Bon, Jean-Louis Debré, eh bien, lui avait invité les dessinateurs. Alors. Comme Cabu, comme Pétillon, etc. Plantu, je l'ai dit, Calvivias, Boll, il les avait invités à exposer au musée du Parlement à Versailles, à exposer leurs œuvres. Donc, être caricaturé, je répète, eh bien, c'est bienvenu, hein, pour qu'il y ait un peu le sens de l'humour, mais beaucoup demandent. Hein. Alors, à la télévision, il y a eu, à partir des années 84, il y a eu le bébé de show sur TF1, les guignols de l'info. Alors là, c'était, le grand public. Hein, les bébés de show, c'était populaire. Je pense que les guignols de l'info, c'était un peu plus subtil. Mais alors, le bébé de show, c'était la grosse rigolade. Enfin, mais il y avait au meilleur, à l'optimal, peut-être 2 millions de téléspectateurs. Quoi. Et puis ça a été supprimé. Ça a été supprimé brutalement. Quoi. Voilà. On peut citer aussi bien sûr les films, ça me vient à l'esprit. Il y avait le film, par exemple, le Miraculé. Hein, alors, non, me vient plus, qui est très drôle aussi. Enfin, mais là, c'est assez saignant. Hein. Le Miraculé de Ross. Je vais le retrouver. C'est un réalisateur qui est mort aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi des émissions de télévision. Quoi, là aussi, qui va me revenir. Et là, d'ailleurs, je me parie, c'est assez brutal quand même. Le réalisateur que j'évoque, il a fait Le Miraculé et d'autres. Documents, on va peut-être me le donner si tu peux le chercher. Le Miraculé, on le passera peut-être l'extrait sur là. J'ai vu dans une émission grand public aussi, dont j'ai oublié le titre aussi, je vous le donnerai la prochaine fois. Il y avait un prêtre qui était là, un prêtre en soutane, et il y avait eu une altercation. Et le prêtre a répondu, parce que le réalisateur que je vais citer, tu le cherches, s'il te plaît. Et il disait, ce monsieur qui est en jupe, etc. Alors le prêtre, tendance à intérêt, se dit, ce connard, je crois qu'il l'appelait connard, et bien, s'il y a un connard ici, c'est toi. Mocky, Jean-Pierre Mocky, voilà. Et là, ça l'avait un petit peu secoué, parce que c'est quand même aussi, il faut être prudent, parce qu'il n'aurait pas dit ça à propos d'un imam en soutane, hein, Angela Barr. Je suis sûr qu'il n'aurait pas dit ça. il le disait de la part d'un prêtre. Et là, le jeune prêtre a eu une réaction brutale. Alors, tu pourrais me donner l'émission aussi, on va le retrouver. C'était une émission grand public qui a été supprimée, là aussi, hein, parce que ça faisait trop de vagues. Il a répondu, mais le connard, c'est toi. Et il a eu raison, hein, voilà, somme toute. Alors, on recite toujours ces noms, Charles Philippon, voilà, qui était un petit peu dans le désordre et dans toutes les époques. Hein, voilà. Là, on est au 19e siècle. Là, c'était des satires de mœurs. Hein, voilà. Donc, je vais peut-être... Bon, Honoré Daumier, oui, c'était des encarts que j'ai... Je voulais développer les carrières des uns et des autres. Philippon, Daumier... C'est les grands André Gilles, mais qui appartiennent au 19e siècle. Et aujourd'hui, bien sûr, on en a des grands aussi, et notamment dans les médias audiovisuels. Il y a eu les chansonniers, bien sûr. Il y a eu. Aujourd'hui, ça s'est perdu, ça n'existe plus, les chansonniers, notamment la boîte à Fursy, qui était 58 rue de Pigalle. Voilà. Qui est devenue la boîte à sel, ou une autre, la boîte à sel, voilà, où ces chansonniers se produisaient. Et puis, pendant la guerre, je l'ai dit, il y avait Radio Londres, alors il y avait Maurice Van Ropen, et puis Jean Oberlé, bien sûr Pierre Dac, très connu, voilà, qui intervenait depuis Londres avec les forces françaises libres. Et à l'Élysée, Vincent Auriol, donc en 1953, la 4e République avait invité les dessinateurs René Dorin et les humoristes, les chansonniers Raymond Souplex, Gabriello. Là, c'est des chansonniers qui étaient à la fois chanteurs, enfin, qui racontaient des anecdotes, enfin, Jean Marne, etc. Vincent Auriol, qui était d'ailleurs socialiste, les invite, voilà. Et ils se produisent souvent sur scène et à la radio, hein, voilà. On peut citer des tas de noms. Alors, bien sûr, il y a eu, comme je disais, Raymond Souplex, voilà, et d'autres, moins connus comme tels, mais qui ont été aussi acteurs. Il y a eu Jean Yann, bien sûr, plus récemment, Jacques Martin, Thierry Luron, Coluche, voilà, qui ont parfois été interdits d'antenne. Ah oui, c'était Droit de réponse, l'émission que j'évoquais chez Michel Pollack, hein, qui a été supprimée, où je citais, je pense, cette anecdote. Alors, dans les revues, il y a eu L'Enragé, en 1968, Jean-Jacques Pauvert, voilà. J'ai cité ces noms, Volkonski, Topper, Cabu, GB, etc., Gordon, Willem, voilà. En 1980, Charlie Hebdo. Bon, c'est de la répétition, peut-être. Alors, sur la caricature, moi, mon opinion, quand même, aujourd'hui, c'est que... Je pense que, pour ce qui concerne la religion, il me semble que, effectivement, puisque il y a un encadrement et même une répression, je l'ai dit, l'homophobie, le sexisme, hein, il suffit de dire... Les femmes sont nulles pour ceci ou cela, vous êtes attaqué. Hein. Je me souviens avoir entendu en fac, d'ailleurs, un prof de droit, il évoquait le vote des femmes, c'était dans les années 70, et il disait, eh bien, elles voteront toujours mieux qu'un ivrogne. Alors aujourd'hui, ils seraient attaqués, hein, je pense. Hein. Donc, quand Dieu est attaqué, pour certains, c'est leur vie. Ils sont engagés, par certains ont donné leur vie, d'autres engagent toute leur vie. Donc je pense que là, ça devrait se respecter quand même, quelles que soient les religions. Voilà. On va vous passer un autre intermède. Alors j'ai envie là de vous passer peut-être Fernand Reynaud. Je ne sais pas si on aura le temps. Alors bon, on va passer le bébé de show. Il est en ligne. Il est prêt. On va vous passer un petit extrait d'une des émissions du Bébé de Chaux. C'était très court. On se retrouve dans une minute.
Allez, Dédé, on y va.
Allez, allez.
On y va, on y va.
T'as qu'à y aller, toi.
On y va, on y va.
Écoutez, toi, ta gueule.
Attention.
Il est là, Dieu.
Salut les gars!
Salut Dieu!
Ah, mortel de moi-même! Qu'est-ce que je suis grand!
Je vous l'avais dit, il est dopé!
Oh putain!
Crac crac crac!
Appelez-moi Dieu!
Je le vais! Crac crac crac!
Appelez-moi Dieu!
Je le vais! Crac crac crac!
Appelez-moi Dieu!
Je le vais!
Je le vais! Je le vais! Je le vais!
Thank you.
foi Dieu.
Alors sur les caricatures que j'évoquais, qui caricaturent le, non pas le personnel religieux, si on peut dire les institutions, mais les Dieu. Et alors il y a eu des caricatures très très sèche, très dure, on va dire, très agressive. Alors j'ai évoqué le Christ, mais lui, qui lui était présenté en victime des curés, quoi. Sur la croix, cloué par des curés, grotesque. Alors il y a bien sûr les corbeaux, souvent ça évoquait les prêtres, quoi. Et donc une revue de satirique qui s'appelait Les Corbeaux, on les comparait aux cochons. Alors par exemple, il était attaqué aussi. Alors le pape peut être présenté comme un hermaphrodite, enfin, et puis là c'est les institutions, mais par exemple le mythe de, enfin, ou le dogme de la Vierge de la Vierge qui a eh bien conçu le Christ étant Vierge, il y a eu là aussi beaucoup de, par exemple, caricatures qui montraient Joseph un vieux, le vieux époux de Marie, Saint Joseph, qui se rendait compte devant le ventre arrondi de sa femme, eh bien, on lui voyait des cornes qui lui poussaient, quoi. Ou bien on avait une autre caricature de la jeune Marie qui était poussée vers un lit par un beau légionnaire romain. Et alors, je pense que c'était en légende, elle voyait, mais vous êtes l'ange Gabriel. Vous voyez, c'est des caricatures, c'est. Eh bien, qui peuvent blesser peut-être, voilà, et qui sont mal vécus peut-être pour ceux qui en font leur vie, quoi, voilà. Donc, on va vous passer, parce qu'on est limité par le temps, je voudrais passer ces intermèdes que j'ai soigneusement choisis après le bébé de chaud. Là, j'ai envie de vous passer Fernand Reynaud, hein. Alors, là aussi, c'est une satire qui est un petit peu d'actualité. C'est L'Étranger, ce grand Fernand Reynaud qui est mis aujourd'hui sur la touche. Il a fait rire la France entière, mais aujourd'hui, il est de bon ton de ne pas en parler. Je pense parce qu'il avait peut-être un côté misogyne. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, il faut pas. C'est mortel, quoi. Alors, Fernand Reynaud, L'Étranger. J'aime pas les étrangers.
Mon nom à moi, je m'appelle Kulak Yerstensky, du côté de ma mère, et Piazzano Banditti, du côté d'un copain à mon père. J'aime pas les étrangers. Je viens de manger le pain des Français. Dans le village où j'habite, on a un étranger. Quand on le voit passer, on dit, tiens, ça, là, ça, c'est l'étranger. Comme un objet, on n'a pas de respect. Quand on a du respect pour un être humain, on ne dit pas ça, là, c'est pas ça, non, non, on dirait ce monsieur. Quand sa femme passe, l'étrangère, baissant la tête, on dit, celle-ci, c'est l'étrangère. Ça vient de manger le pain des Français. Le dimanche, à la messe de 10h, j'avais été communié au café d'en face. L'étranger a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire, j'avais mon tiercé à faire. Mais enfin, moi, je suis douanier. Je suis pas un imbécile. Enfin, du haut de ma grandeur, étant fonctionnaire, j'ai daigné l'écouter, cet imbécile. Il est étranger, forcément. Il m'a dit, mais ne pensez-vous pas que vous êtes ridicule, à notre époque, de ne pas aimer les étrangers, hein? Réfléchissez, quand un chirurgien du Cap va opérer un cœur humain, que ce soit à Pékin, Stockholm, Moscou ou Washington, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. J'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je ne peux pas être bête. Je suis douanier. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol, moi. Votre pain et votre France. Je m'en vais. Il fout le camp. Il a pris sa femme, ses enfants, sa valise. Il est monté sur un bateau. Il est parti loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, nous ne mangeons plus de pain. Il était boulanger.
Je vais vous donner peut-être quelques dates, chronologie, quelques points de repère. Donc, mettons en 1794, la Révolution, en pleine terreur, le comité de salut public commande à des artistes, dont le grand David, le peintre, vous savez, historique, une série de caricatures anti-anglaises, puisque les monarchies sont en guerre. La France est en guerre contre toutes les puissances monarchiques, voilà. Et après l'exécution des souverains, etc. 1798, invention de la lithographie. 1830, création du journal La Caricature, par Philippon. 1832, Daumier, qui a critiqué Louis-Philippe, donc il a ridiculisé, est emprisonné à Sainte-Pélagie. En 1835, vote d'une loi de censure, sous Louis-Philippe encore, la caricature cesse de paraître, de Le Charivari, créé par Philippon, est également menacé, et il se retourne, il évolue vers une satire de mœurs, hein, qui est moins dangereuse, moins directe, moins frontale. Donc en 1851, sous le Second Empire, après le coup d'État, hein, à l'aube du rétablissement du Second Empire, abrogation de la liberté de la presse par une loi du 4 décembre 1868, interdiction de La Lune, c'est un autre journal satirique qui renaît, alors il renaît sous un autre titre, l'Ellipse. 1870, création du journal La Charge, alors à la fin du Second Empire. 1881, fin de la censure, cette fameuse loi du 29 juillet sur la liberté de la presse. Donc les journaux se déchaînent là et publient des caricatures sur les scandales politiques. Voilà. Et puis en 1894, par exemple, c'est des dates un petit peu sélectionnées, création du Rire, autre journal par Félix Juvène. Alors, il paraissent des dessins de Toulouse-Lautrec, on le sait, ou de Caran d'Ache, des caricatures féroces par Charles Léandre et des images satiriques de la presse étrangère. 1901, premier numéro de l'assiette au beurre. 1915, donc c'est la guerre. Et donc, peu de caricatures. On peut en citer une qui fait polémique, le débourrage de crâne. Voilà, c'est le titre. Là, c'est très dangereux. Là, je pense que c'est la prison. Enfin, voilà, c'est une sorte de trahison. Hein. Création de à la baïonnette, du crapouillot et du canard enchaîné en 1915. En 1940, donc, bien sûr, caricature politique muselée, même en zone libre, la presse doit prôner l'anglophobie, hein, l'ennemi de l'Allemagne, hein, et de la France collaborationniste. 1952, création d'un magazine satirique américain, MAD, qui influence le courant underground et la contre-culture dans les années 60-70. Hein, voilà. Donc, je pense qu'on pourra conclure en vous passant ce que j'avais évoqué, le film de Jean-Pierre Mocky, Le Miraculé, qui était vraiment très... Il était anticlérical, mais j'ai évoqué cette anecdote, parfois de façon un peu absurde et très tendance. C'est des critiques, des caricatures parfois, et aujourd'hui c'est le cas, je pense, qui vont toujours dans le sens du vent, au contraire. C'est pas des vrais contestataires. Voilà. Ils sont en fait, au final, très conformistes. Donc, on vous passe cet extrait de film, Jean-Pierre Mocky, Le Miraculé. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis, et tous mes voeux pour 2021.
Vous avez 3 minutes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Top.
Pardonnez-moi, mon père, parce que... j'ai filmé. À Lourdes. C'est une comédie pour rire. Je m'appelle Jean-Pierre Mocky. Ah bon, tu me connais pas?
Ah merde alors.
J'ai engagé Poiré, Serrault, Moreau, et puis comme ça, j'ai ajouté des choses dans le film pas très catholique. je crois que... que Satan m'habite. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais je suis venu à confesse parce que Satan m'habite.
Comment, Seigneur? Ce film va sortir!
Oui, mes enfants, le 18 février, le jour de la Sainte Bernadette.
Oui, le 18, c'est ça, mon Dieu, c'est ça?